Mesdames, messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. Une émission dans laquelle se font des échanges sur des thématiques importantes de la vie et qui vous permet d'obtenir des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Il s'agit d'une émission que le studio Kalangou diffuse à travers ses 52 radios partenaires répartis dans l'ensemble du territoire national et sur cette télévision partenaire dont 6 à Niamey et 1 à Zinder. Le forum de ce soir a pour thème « Comment booster la production du riz de la région de Tillabéri, défis et perspectives ». Au Niger, le riz constitue la troisième céréale après le mil et le sorgho. C'est l'aliment de base et quotidiennement consommé par bon nombre de familles. La riziculture est essentiellement pratiquée dans la vallée du fleuve Niger, dans les régions de Tillabéri, d'Osso et d'Ifan. Selon la direction régionale de l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA, la région de Tillabéri compte 33 aménagements hydro-agricoles, dont 31 sont rizicoles, et au total 30 786 exploitants répartis dans 5 départements et 13 communes. Cependant, les paysans font face depuis un certain temps à des contraintes liées à une pénurie d'engrais et une interdiction d'importation du carburant vers les rizières pour faire fonctionner les motopompes, toute chose qui n'est pas sans conséquence sur la production du riz. Comment se présente la production du riz dans la région de Tillabéri? Comment accompagner les producteurs pour améliorer la production du riz? Quelles sont les difficultés auxquelles font face les producteurs? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité dans ce studio Tebonsé de Tillabéri, Monsieur Alzuma Munkaila, acteur de la société civile, représentant du cadre de concertation pour des actions citoyennes CCAT. Bonsoir Alzuma.
Bonsoir madame.
Bachir Hassan, directeur de périmètre à l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA. Bonsoir Bachir. Et Abdoulatif Ayouba, producteur. Bonsoir Abdoulatif.
Bonsoir madame.
La présentation est assurée par Fatih Zakari. Je commence donc avec Bachir Hassan, directeur de périmètre à l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA. Monsieur Bachir, veuillez donc nous présenter brièvement votre structure.
Bonsoir madame. Notre structure, l'ONAHA, l'Office national des aménagements hydro-agricoles du Niger, est composée d'une direction générale d'abord, qui est à Niamey. Et ici, on a la direction régionale. La direction régionale est structurée par différents services. Il y a le service vulgarisation, le service à l'appui à l'organisation coopérative.
Alors, Bachir, quelle est donc la mission principale de l'ONAHA?
La mission principale de l'ONAHA, c'est d'encadrer les paysans en vue d'une meilleure production du riz au Niger.
Alzuma Munkaila, cadre de concertation pour des actions citoyennes, veuillez nous présenter brièvement votre structure.
Bonsoir madame. Donc, le cadre de concertation pour des actions citoyennes de Tillabéri est composé, c'est une organisation fêtière composée du ROTAB, de Alternative Espace Citoyen, REPAD, Tournons la Page, MPCR et beaucoup d'organisations socio-professionnelles telles que l'Association des commerçants et autres. Nous faisons plusieurs activités, notamment dans le domaine de la sensibilisation des populations dans le cadre du civisme. Nous faisons de la salubrité, nous travaillons dans l'environnement, nous travaillons, disons, dans plusieurs domaines et surtout, nous faisons tout ce que les associations que je viens de vous citer sont en train d'accompagner l'État dans ses missions régaliennes.
Voilà. Avant donc de donner la parole à Abdoulatif Ayouba, je vais demander donc à Bachir Hassan, directeur de périmètre de l'ONAHA, de nous faire donc une présentation de la riziculture dans la région de Tillabéri.
Et la riziculture dans la région de Tillabéri, nous produisons le riz ici en 2 campagnes par an. Donc chaque 6 mois, on a la production du riz. Le rendement moyen est de 7 tonnes à l'hectare.
Alors quels sont les systèmes de production? ici dans la région de Tillabéri.
Oui, le système de production ici est contrairement à celle des autres. Au niveau des périmètres, nous avons la maîtrise de l'eau. Oui, on a la maîtrise de l'eau qu'on distribue aux producteurs. À la fin de la campagne, le producteur paye la redevance. C'est-à-dire la redevance regroupe l'eau et les produits et les intrants agricoles. À chaque 6 mois, c'est-à-dire la campagne, le producteur, on lui fait les calculs de ses redevances qu'il vienne payer soit en nature ou en espèces.
Alzuma Amunkeila, est-ce que vous avez donc quelque chose à ajouter donc par rapport au niveau de production régionale et aussi sur les systèmes de production?
Par rapport à la production, nous avons 2 systèmes. Celui que le représentant de l'ONAHA vient de dire et les rizières privées aussi. Nous avons des rizières privées, des personnes privées qui ont leurs rizières et qui les mettent en œuvre aussi. Voilà ce que je peux ajouter.
Abdou Latif Ayouba, vous êtes producteur ici dans la région de Tillabéri. Alors, quelle appréciation faites-vous de la production du riz ici dans la localité de Tillabéri?
Okay. Merci pour cette occasion que vous nous offrez afin de nous faire écouter sur les ondes de Studio Kalangou. Et la question est de dire aujourd'hui que la production au niveau de la région de Tillabéri et particulièrement dans le département est rentable. En sens que ces 2 dernières années, par rapport aux années antérieures, il y a eu un rehaussement avec ce qui est connu de tous. Je vais dire l'aspect lié à l'insécurité aujourd'hui qui entrave les producteurs à bien travailler, parce que aujourd'hui nous sommes privés, n'est-ce pas, et de certaines choses qui puissent en tout cas nous aider à bien travailler dans les rizières, notamment la vente de carburant au niveau des stations, et aussi et l'insécurité qui a fait qu'il y a eu vraiment des restrictions du point de vue d'aide, parce que tous les projets intervenant dans ce sens aujourd'hui ont pris recul. Donc vraiment, nous ne pouvons que dire et que ces 2 derniers temps, que vraiment, la production, elle est bonne, mais elle souffre d'un certain nombre de problèmes que je viens de citer, dont entre autres la non-vente du carburant au niveau des stations et aussi le recul de certains partenaires œuvrant dans le domaine de la production rizière.
D'accord, Abdou Latif, avant donc d'entamer les contraintes liées à la production du riz de la région de Tillabéri, l'année dernière, vous avez eu combien de tonnes dans votre champ de riz?
Moi, nous sommes une coopérative, nous sommes une équipe, j'allais dire, et donc cette équipe, elle est composée de plusieurs personnes, dont Afeka tout à l'heure, M. Alzuma. Il y a des gens à titre privé, il y a des gens à titre public, comme on l'a dit. Et nous avons enregistré 20 tonnes, je crois, de riz à la dernière campagne.
Alzuma Mukela, quelle est donc votre appréciation sur la production du riz de la région de Tillabéri?
Merci, madame. Pour moi, vraiment, il faut classer ces productions en 2 parties. La plupart des coopératives créé par l'État, bien sûr. Les producteurs se plaignent, surtout de la non-disposition de l'engrais. Et du fait que nous constatons qu'aujourd'hui, il y a une chute de la production dans ces aménagements, qui est due à beaucoup de facteurs sur lesquels nous allons revenir bientôt. Mais pour moi, vraiment, ce n'est pas luisant. Parce que le kilo ou le 800 grammes qui coûtait 175-200 francs, aujourd'hui est à 350 francs sur le marché. Donc, c'est devenu cher. Il faut qu'on nous explique. Normalement, s'il y a beaucoup de production, ça doit baisser. Donc, le fait que les entrants coûtent cher a fait que vraiment, ou en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, la production au niveau des rizières, ça ne va pas. On peut faire plus.
Et en ce qui concerne les semences, je m'adresse à Abdou Latif Ayouba qui est producteur. Est-ce que c'est des semences améliorées ou bien c'est...
Oui, c'est des semences améliorées. C'est des semences, à un moment donné, qui sont vendues au niveau de la CAIMA, la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole. Oh, oui. c'est des semences à améliorer.
Et le coût, est-ce que c'est abordable?
Bon, le coût, ça va. Le coût, ça va, mais vous connaissez les difficultés auxquelles nous faisons face. Oh oui, et nécessite qu'il y ait, n'est-ce pas, une diminution de la part de l'État. Et surtout que ces derniers temps, même au niveau de la centrale d'approvisionnement en intrants matériels agricoles qui est la CAIMA, j'allais dire, il n'y a pas assez de semences. Mmh. Oh oui.
Et ces semences améliorées, il faut combien de temps pour que vous fassiez la récolte?
C'est la même période, 3 mois. Oh oui.
Bachir Hassan, directeur de périmètre à l'ONAHA, que fait l'ONAHA pour accompagner les producteurs afin d'améliorer la pratique de la riziculture?
Oui, l'ONAHA encadre et sensibilise les pays et les producteurs. Il sensibilise les bonnes pratiques, les nouvelles pratiques agricoles. Sur les périmètres.
Mmh. Et c'est quoi les bonnes pratiques?
Les bonnes pratiques, quand nous prenons l'exemple de l'engrais. L'engrais coûte cher maintenant. L'engrais coûte très cher même. Mais nous, on essaye de s'adapter.
Mmh.
S'il faut mettre 3 sacs d'engrais et que chaque sac coûte 25 000. On peut réduire ce nombre de sacs à 3, à 2, 2 même, en utilisant les fumiers organiques, c'est-à-dire les composts et autres.
Mm-hmm.
C'est ce que nous sensibilisons vraiment. Parce que l'engrais, là, ça ne diminue pas. On est obligé de s'adapter à la chérité des intrants.
C'est sur cet aspect seulement que vous accompagnez les producteurs, les paysans.
Oui, effectivement, nous, c'est d'améliorer les rendements.
Et à travers ça, est-ce que vous avez enregistré des résultats encourageants?
Oui, effectivement, on a des résultats satisfaisants.
Abdelatif Ayouba, vous faites aussi partie d'une coopérative. Donc, vous, les producteurs, vous vous êtes organisés en coopérative. Alors, que fait donc cette coopérative pour accompagner les producteurs?
Ok, et après chaque récolte, il y a une sorte de tasse que nous imposons à tous ceux qui adhèrent à notre coopérative afin, n'est-ce pas, de préparer la prochaine récolte.
Mm-hmm.
Et comme l'a si bien dit le directeur du périmètre de Tillabéri, et souvent, les sommes collectées, nous payons des engrais avec, et au niveau de l'État aussi, nous empruntons après, on paye la redevance à travers cela.
Mm-hmm.
Oh oui. C'est ce que nous faisons d'habitude.
Alzouma Moukaila, société civile, qu'est-ce que vous faites pour accompagner les producteurs pour un meilleur rendement?
D'abord, dans le département ou dans la région de Tillabéri, la plupart des acteurs même sont producteurs. Moi qui vous parle, je suis producteur. Mais l'accompagnement, je sais, le plus récent que nous avons eu à faire, par exemple, quand il y a eu ces restrictions par rapport à la vente du carburant,
mm-hmm.
et la CCAC avait créé les conditions pour que les populations et l'administration s'asseye et définir comment trouver un mécanisme pour avoir accès au carburant. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent avec le carburant qu'ils transportent dans les bidons. On peut citer les maraîchers, les producteurs privés de riz, ceux qui ont les pirogues à moteur, les mécaniciens, ceux qui ont les moulins, etc., etc. Donc le mécanisme, au bout de 2 jours, avec la mairie, le gouvernorat et la préfecture, nous avons pu faire sortir une fiche sur laquelle il y a le nom et prénom, l'activité que la personne exerce, la quantité de jus, de carburant dont il a besoin dans la semaine ou dans la journée, ou si possible la superficie du terrain. Tout cela a été fait avec tous les chefs de village et les chefs de quartier de la commune de Tillabéri. Et à notre entendement, la région avait pris l'engagement de dupliquer tout ce que nous avons eu à faire. Donc cette fiche, peut-être elle peut être améliorée, mais dans tous les cas de l'utiliser dans toute la région. C'est-à-dire au niveau du chef de village, qu'on écrive le nom de tous les producteurs qui ont besoin du carburant et qu'on le donne à un seul individu qui viendra à la mairie. Et la mairie certifie avec la préfecture et on lui donne du carburant. Comme ça, même si le FDS le rencontre, avec les papiers qu'il a détient, vraiment on peut le laisser passer. Voilà vraiment récemment ce que nous avons pu faire par rapport à l'aide que nous avons pu apporter.
Nous entamons à présent la deuxième partie du forum qui porte sur les difficultés auxquelles font face les producteurs dans leur activité de riziculture. Parlons donc des difficultés. Nous allons d'abord écouter Abdoulatif Ayouba. Vous êtes producteur.
Et donc, les difficultés que nous rencontrons ont été déjà suscitées par notre prédécesseur. Elles sont relatives, n'est-ce pas, à la vente interdite du carburant au niveau des stations et la charité au niveau
de l'engrais
l'engrais et aussi des semences.
Mmh.
Oui.
Mmh.
Parce qu'il faut dire que hormis la vente interdite du carburant, il y a aussi le coût élevé, n'est-ce pas, du transport des engrais. Parce que souvent, quand nous prenons l'engrais au niveau du Nigeria, avant que ça ne vienne ici, vous voyez, tous les bénéfices là vont partir. Oui. Je me rappelle la dernière fois, on avait tenu une réunion avec Omar de Fala, qui est aussi un grand producteur avec qui nous avons beaucoup échangé. Et nous sommes juste en train de le faire parce qu'on est habitués. Sinon, ces derniers temps-là, ce n'est pas vraiment pour gagner quelque chose. Et souvent aussi, après cela, vous voyez, les gens qui nous amènent l'engrais, ils prennent encore le riz. Voilà, c'est ce qui fait que le coût du riz ne fait que rehausser. Vous comprenez? C'est les gens, souvent, c'est en échange façon. Oh oui.
Azuma Munke, la cadre de concertation pour des actions citoyennes, tout à l'heure, vous avez commencé à évoquer quelques contraintes liées à la production du riz dans la région de Tillabéri. Est-ce que vous en avez encore d'autres?
Je vais ajouter le problème organisationnel même, c'est-à-dire nos coopératives ne fonctionnent pas telles qu'elles doivent fonctionner. Parce que quand on prend la plupart de ces aménagements, ont été mis en place par l'État. Personne n'a mis un frein. C'est l'État qui a fait les aménagements, c'est l'État qui a mis les motopompes en place. Il a dit aux populations, venez prendre pour gérer. Maintenant, voilà là où se trouve le problème. Aujourd'hui, ces aménagements sont fatigués, les machines sont fatiguées et il n'y a pas l'argent pour les renouvellements. Or, dans le dispositif réglementaire, tout cela est prévu. Les fonds qu'on doit déposer pour l'amortissement, les fonds qu'on doit déposer pour l'investissement, les fonds qu'on doit déposer pour les formations et différents fonds que la loi prévoit. Ça, c'est au niveau organisationnel des coopératives. Parce que la coopérative même, en réalité, si elle fonctionne très bien, elle amène beaucoup de facilité aux producteurs. Parce que ce que tu peux faire seul, si vous le faites à deux, tu vas faire une moitié, l'autre va faire une moitié. Et plus vous êtes nombreux, le représentant de l'ONAHA vient de dire que nous avons 30 et quelques mille exploitants. Quand on prend 30 et quelques mille exploitants, mais c'est beaucoup, on peut faire beaucoup de choses avec. Maintenant, je reviens du côté encadrement. L'encadrement même aujourd'hui fait beaucoup défaut. Parce que hier, on était dans une émission, vous avez entendu ce que les producteurs ont dit. Qu'avant, il y avait des agents qui les suivaient d'une manière permanente. Et que maintenant, il n'y a pas ces agents. Et le côté de la mise en place des intrants aussi, tous les intrants, que ce soit les produits phytosanitaires, que ce soit les engrais, que ce soit les semences, là aussi, il y a des grandes difficultés. Parce que la production du riz, normalement, c'est une chaîne. On doit arranger cette chaîne pour qu'il y ait les producteurs à part, les producteurs de semences, qu'on facilite à avoir tous les intrants en un mot. Et ça aussi, on constate que 40 ans après la mise en place de ces coopératives, ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir que nous tous, nous prenions les responsabilités, et les coopératives, et l'État qui est chargé de mettre de l'ordre, et l'ONAHA et tout le monde, essayer de voir comment ces coopératives marchent, ce qui ne va pas dedans pour qu'on arrange, on continue. Sinon, ces rizières-là vont être des rizières privées, c'est des riches qui vont venir les prendre dans 10, 20 ans. Parce que les producteurs n'auront plus l'argent pour refaire l'aménagement. Ils n'ont pas l'argent pour acheter d'autres machines. Ça veut dire qu'on risquera de laisser certaines coopératives, ou déjà peut-être il y a d'autres coopératives dans lesquelles une grande superficie n'est pas mise en valeur. Et petit à petit, jusqu'à ce que la totalité ne soit pas mise en valeur. Et quand le Richard va passer, il va dire ça appartient à qui. On va dire non, c'est une vieille coopérative qui ne marche pas. Donc ça fait combien? Et vous voyez ce que... Et là... La grosse difficulté, on constate qu'aujourd'hui, l'agriculture n'est plus une affaire de pauvres. Parce qu'un sac d'engrais à 25 000, soyez sûr que le paysan ne pourra pas le faire.
Et le paysan même, parmi les problèmes, il y a le paysan même qui est problème à lui-même. À un certain moment donné, quand on donne des 4 sacs d'engrais, 4 sacs d'engrais, un exemple à chaque paysan, le soir, vous allez retrouver 2 sacs dans le marché, sur le marché.
Ils vendent ça.
Ils vendent ça. Ils vont dire qu'ils sont pauvres. Et en fin de compte, ils vont dire que c'est Dieu qui n'a pas amené la production, c'est les oiseaux qui ont mangé. Il y a au Niger 2 secteurs qu'on a laissés à des gens qui ne sont pas partis à l'école. L'agriculture et l'élevage. Maintenant, vraiment, avec
Abdelaziz, la jeunesse là qui commence à prendre conscience,
on peut penser que ça va changer. Si eux-mêmes, ils ne sont pas comme nous qui les avons encadrés.
Il vient de dire, effectivement, il y a ce problème d'encadrement qui fait de fou. Et vous connaissez, n'est-ce pas, la réalité du monde rural. Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'amener le villageois à comprendre un certain nombre de choses. Et cela prend du temps. Maintenant, avec les petites formations, les petits ateliers que nous faisons, ils sont en train de comprendre, n'est-ce pas, la nécessité de l'implication, de leur implication dans certaines instances décisionnelles. Et par rapport aussi au matériel dont il avait fait cas, c'est vrai, certains sont à plat, mais à travers les petits prélèvements que nous faisons au niveau du COGES, et en tout cas, à Fala, nous avons pu en tout cas acheter une machine qui est en bon état avec des groupes électrogènes. Et à même pas longtemps, nous avons aussi construit un grand magasin à valeur de 18 millions. Donc je crois que ça va, les gens sont en train de revenir à la raison, c'est difficile. Le changement existe, mais il prend du temps.
Ça va venir petit à petit.
Voilà, c'est ce que je voudrais ajouter tempérament à ce que ton père vient de dire.
Bachir Hassan, directeur du périmètre à l'ONAHA. Vous avez suivi l'acteur de la société civile et le producteur sur leurs difficultés. Alors, quelle est donc votre réaction?
J'ai suivi les deux intervenants. Et par rapport aux difficultés, oui, il y a la difficulté au niveau des intrants, l'engrais. Et il y a aussi la Nigelec. La Nigelec coûte cher, très cher aux coopératives. Parce que au niveau des coopératives irriguées, il y a les stations de pompage et il y a les pompes qui assurent la fourniture de l'eau. Donc ces pompes fonctionnent
avec l'électricité.
Oui, cette électricité est payée chaque mois. Et il n'y a pas longtemps, la Nigelec a installé des nouveaux compteurs que nous, on ne comprend même pas. Les compteurs qui ont l'habitude d'amener 500 000 francs facture, maintenant, ils doublent ça. 1 million 200 000. Ce qui fait que par campagne, il y a des coopératives qui payent jusqu'à 11 millions d'électricité par campagne. La campagne fait 6 mois. Moi, c'est les deux plus grands problèmes que les opérateurs rencontrent au niveau des périmètres.
Le manque d'engrais et la question du carburant pour faire fonctionner les motopompes sont donc, entre autres, difficultés soulevées par les producteurs. Alors, qu'est-ce qui explique cela?
Bon, nous, à l'ONAHA, on ne peut pas parler des motopompes parce que nous, déjà, on a l'électricité avec les stations de pompage. Les motopompes, là, c'est les producteurs privés qui ne sont pas en coopérative. Et eux aussi, ils rencontrent des sérieux problèmes. Parce que il y a même des espaces vides qui sont délaissés pour ce manque de carburant-là. Pour un producteur qui est à Fala, pour venir chercher l'essence à Tillabéri, ça nécessite beaucoup de moyens. Et si on n'a pas ce moyen, il ne peut pas se déplacer, venir chercher ces carburants, vraiment.
Et la chèreté de l'engrais?
Oui, la chèreté de l'engrais. Parce que si il faut mettre 4 sacs dans ton parcelle pour que ça réussisse et que tu n'as pas les moyens. Avant, l'engrais était à 13 000, 18 000, 18 000 francs. Ça va. Mais maintenant, 25 000 francs. Est-ce qu'on a la certitude de bien produire pour payer ces 18 000 francs, pour payer ces 25 000 francs par ça?
Mais pourquoi c'est cher?
C'est cher, ça. C'est une question qu'il faut poser à l'État. Parce qu'avant, c'est la CAIMA qui nous fournissait l'engrais. Mais maintenant, un beau jour, ils ont dit que la CAIMA n'est plus dans l'histoire d'engrais. Maintenant, c'est les commerçants privés. Et la campagne passée, il y avait même eu une pénurie. Avec ton argent, il n'y a pas l'IRI. Avec ton argent en main, tu cherches l'IRI, il y a des coopératives qui sont obligées d'acheter le DAP, qui est une autre sorte d'engrais.
Au niveau de l'ONAHA, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ce problème?
Nous, c'est l'encadrement.
C'est juste l'encadrement.
Mmh. Oui.
Vas-y, Alzuma.
Je vais parler vraiment de la mauvaise organisation de ces coopératives. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas accès aux intrants. Parce que nos coopératives, il ne faut pas se cacher la face, elles sont très mal gérées. Très mal gérées par les gens qu'ils viennent de citer tout de suite. Le président, le trésorier et autres. D'abord, il y a la politique qui rentre dedans. Pour élire aujourd'hui un président, tous les partis politiques sont debout le jour de l'élection. Et la plupart des temps, c'est lui qui gagne. Quand il gagne, et moi j'ai vu des coopératives, parce que l'État doit prendre ses responsabilités. Parce que moi j'ai vu des coopératives qui, à la fin de la campagne, ils donnent une quantité au maire, une quantité au préfet, une quantité au chef de canton. Et ça, je pense que c'est pas prévu. On peut le faire si ça se passe devant tout le monde. Si c'est la coopérative qui dit que moi, les responsables qui sont devant nous, qui nous ont aidés à faire. Mais il ne faut pas que ça soit une affaire de président et de quelqu'un qui se voit dans le bureau pour leur dire, vous avez eu quelque chose, donnez-nous notre. Parce que ces coopératives sont très mal gérées par les responsables de cette coopérative et tout le monde le sait. J'allais venir à un autre problème, celui de l'ONAHA. C'est-à-dire l'ONAHA aujourd'hui, on ne sent pas l'ONAHA dans les parcelles. Quand ces parcelles ont été, ces aménagements ont commencé, on sentait la présence. La vulgarisation dont on parle, la vulgarisation c'est quand par exemple il y a une nouvelle technique, une nouvelle semence, des nouveaux intrants qui arrivent, montrer, convaincre les populations, les producteurs que ça là c'est bon. Il n'y a pas cette vulgarisation. En tout cas, l'information ne circule pas. L'État aussi ne joue pas son rôle. Parce que je venais de vous dire, on avait fait sortir une fiche pour avoir accès au carburant. Cette fiche-là même devrait être vulgarisée.
Qu'est-ce qui est dit dans la fiche?
Dans la fiche, on dit que pour avoir du carburant aujourd'hui avec la restriction, chaque chef de village doit remplir cette fiche qui comporte le nom et prénom des producteurs ou de tous ceux qui ont besoin du carburant. Une colonne pour l'activité qu'ils sont en train de faire, une colonne pour la quantité de carburant dont ils ont besoin journalièrement ou hebdomadairement, et une colonne, le numéro de téléphone, qu'on donne à un seul individu pour venir à Tilaberi, parce qu'il y a beaucoup de stations d'essence qui ont été. Donc on dit aux producteurs de garder le même prix du litre à l'essence, mais de fournir aux deux personnes ou à la personne qui va venir chercher le carburant, ces frais d'entretien qui ne vont pas dépasser 1 000 francs ou 2 000 francs, plus les frais de transport. Mais on constate que ça n'a pas été vulgarisé. On constate que les populations n'ont pas eu cette information. Et si nous ne prenons garde, cette année, la production du riz va chuter complètement. Parce qu'il y a beaucoup de périmètres qui ont été abandonnés aux premières heures avant qu'on ne prenne déjà ces décisions. Parce que ces décisions ont été prises de 3 semaines à 4 semaines après la prise de la décision. Donc imaginez une parcelle de riz qui n'a pas été arrosée pendant 3 semaines. Ça veut dire que c'est une perte. Voilà. Donc l'État aujourd'hui, parce que tout revient à l'État, d'abord de contrôler ces coopératives, l'État a le droit de contrôler toute structure, qu'il soit association, qu'il soit coopérative, qu'il soit parti politique. Donc l'État n'a qu'à essayer de mettre de l'ordre dans les coopératives. Sinon, ce qui est sûr, dans une dizaine d'années, il y a beaucoup de coopératives qui vont disparaître.
Abdelatif Ayouba, quel autre impact toutes ces difficultés peuvent avoir sur la production du riz?
Oui, c'est comme l'a si bien dit Tonton. Effectivement, il y aura l'abandon certainement de beaucoup de parcelles. Et aussi, les gens vont s'adonner à des choses néfastes. Mmh. On ne le souhaite pas. Parce que nous avons compris à un moment donné de l'histoire que l'une des raisons, n'est-ce pas, de l'extrémisme violent est due au chômage. Et cela implique beaucoup plus le monde rural. Aujourd'hui, vous imaginez des gens à un moment donné qui étaient dans les rizières, qui faisaient la pluie et le beau temps, comme on l'a dit, aujourd'hui sont privés de travailler. Vous voyez, Et ces gens-là, nous craignons que ça donne à une autre pratique.
Parce qu'ils n'ont pas d'autre activité.
Ils n'ont pas d'autre activité à faire. Et rien que la semaine passée, vous voyez, il y avait des gens qui étaient venus à la coopérative de Djambala. C'était au vu et aux yeux des gens. 19h30. Les gens ne sont pas encore au lit, ils sont venus et voilà. Et chaque fois, les gens craignent que ces gens-là ne puissent pas être de mèche avec les gens de l'autre côté, vous voyez. Voilà, c'est ce genre de choses que nous craignons. Et je crois que pour pallier à cela, il faut permettre au monde rural, particulièrement aux coopératives, n'est-ce pas, d'aspirer au bonheur des décisions prises. Et notamment la vulgarisation du document élaboré et par les organisations de la société civile. Aujourd'hui, pour avoir accès, on sait que les gens ne peuvent pas avoir la même vision des choses, mais il y a des gens que quand ils viennent à la station, on sait justement c'est pour aller cultiver, mais les gens ne comprennent pas jusqu'à preuve du contraire. Même les gens qui font le travail de pirogues, il faut qu'ils détachent le moteur pour qu'ils l'amènent au niveau de la station. Donc toutes ces choses-là sont en train de faire en sorte que vraiment la production est en train de chuter. Et les bras valides aussi sont en train de partir en exode, vous voyez. Et aujourd'hui, quand on fait le tour des villages, il n'y a que des femmes. Rien qu'hier, j'étais jusqu'à Gegourou. C'était pour entretenir avec les gens et de là-bas qui avaient l'air, à un moment donné, l'air chant au niveau de Fala. Vous voyez, aujourd'hui, la plupart, ils sont partis en exode. Les femmes et les enfants sont là. Et c'est une couche aujourd'hui qui ne peut pas aspirer au bonheur de toutes ces tâches-là qui sont relatives, n'est-ce pas, aux activités des rizières. Voilà. En tout cas, nous lançons un grand appel au niveau des autorités compétentes, en tout cas en charge de la question et de la question pour qu'il y ait un allègement au niveau de cette restriction. Oh.
Bachir Hassan, vous avez des compléments?
Oui, au niveau à l'intervention de notre tonton Anton. Et il a parlé de délaissement des périmètres. Ça, c'est au niveau des producteurs privés. Mais les coopératives, l'histoire des sens n'a rien changé au niveau des coopératives. Parce que nous ne travaillons pas avec l'essence. Nous avons l'électricité. Voilà. Nous, notre vrai problème là-bas, c'est la Nigelec, vraiment.
Dans l'affaire de la Nigelec, je vais revenir. Le manque d'organisation fait, par exemple, que quand les paysans planifient les activités. Il y a un calendrier normalement culturel qui devrait être suivi à la lettre. Ce calendrier n'est pas suivi maintenant. Donc, imaginez, nous avons 200 exploitants. On a donné un délai de 2 semaines pour finir le repiquage. Il y a quelqu'un qui prend 1 mois. D'autres vont récolter et d'autres n'ont pas récolté. Et la machine, elle ne sait pas que d'autres ont récolté, elles pompent l'eau de 200 exploitants. Et là, ça peut faire augmenter aussi le prix du carburant. Pour vraiment être géré bien, il faut que nous fassions violence sur nous-mêmes, respecter ce que nous avons dit. Parce que tant qu'on ne le fait pas, il y aura toujours un surplus et qu'on va dispatcher sur tout le monde. C'est là-bas que c'est très grave même. C'est-à-dire, à cause de 3 ou 4 fainéants qui sont dans le groupe, on perd de l'argent et chaque année perpétuellement. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut mettre de l'ordre dans les coopératives. Voilà, merci.
Alors, le Niger se fixe comme objectif d'autosuffisance en riz en 2023 et interdire son importation. Selon donc vos analyses, est-ce que cela est possible d'atteindre cet objectif, Abdelatif Ayouba?
Oui, et cela est possible si l'État s'implique, n'est-ce pas, dans cette affaire. Aujourd'hui, rien que la rupture, j'allais dire, du partenariat entre la CAIMA et les coopératives, et si cette question est résolue. En tout cas, nous pouvons sans risque nous tromper de dire que l'importation du riz peut diminuer, même si on ne peut pas totalement arrêter. Oh, oui. Et aussi, et le coût élevé des entrants. Oh. Parce qu'il ne s'agit pas aussi de nouer cette relation entre la centrale d'approvisionnement en entrants matériels agricoles et les coopératives et que les prix restent intacts. Il faut qu'il y ait une diminution sensible, il faut qu'il y ait une diminution, n'est-ce pas? Et même si cette diminution n'est pas possible, il faut qu'il y ait au moins qu'on accorde un temps aux producteurs. Un temps où ils peuvent, n'est-ce pas, s'organiser et payer, même si c'est par tranche. Dans le temps, c'est ce qu'ils faisaient. Moi, je suis resté avec le directeur régional du temps. Dans la même chambre, je sais comment les choses fonctionnent. C'est d'ailleurs eux qui m'ont inspiré. On sait dans le temps, c'est des recouvrements hebdomadaires qu'ils font. Maintenant, si ces recouvrements hebdomadaires peuvent être des recouvrements mensuels.
Merci madame. En tout cas pour moi, il est impossible, carrément impossible d'ici 2023. Vous dites, ça veut dire dans moins de quelques mois. C'est impossible, c'est même utopique. Pourquoi madame? Vous savez, la plupart de ces Nigériens-là qui prennent les décisions pour dire qu'en 2023... le Niger sera autosuffisant, ne mange pas le riz du Niger. Quelqu'un qui mange riz pakistanais, riz chinois, parfumé, mais comment est-ce que il peut prévoir des choses comme ça? Mais dans le cas où on arrange les coopératives, c'est-à-dire l'État met la main, on arrange, l'État lui-même s'engage à créer les conditions pour que tous les entrants soient à la disposition des producteurs, là c'est possible. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a même pas là où les paysans vont se servir en engrais et venir par là dire en un an encore, on va... Non, c'est presque impossible, madame. Moi, je dis que c'est impossible. Et si vous voulez, l'année prochaine, à la même date qu'on revienne ici, vous allez trouver. Mais si on donne un peu de temps, 2, 3, 4 ans, et qu'on voit qu'il y a la volonté politique, là, on peut penser qu'on peut y arriver. Nous, nous n'avons pas... des militants à surdoyer. Ce que nous voulons, que ce pays-là marche. Et sur la vérité, pas sur la fausseté. Les gens viennent dire que ça va marcher, ça ne marche pas. Non. Si les gens veulent que ça marche, ils n'ont qu'à mettre les moyens à la disposition des coopératives, des producteurs en général. Là, ça peut marcher. Mais s'asseoir, pendant qu'on ne peut même pas avoir de l'essence, on ne peut pas avoir de l'engrais, comment se s'autosuffire sans intrant? C'est presque impossible, madame. Je vous remercie.
Nous avons parlé de l'implication effective de l'État. Si l'État s'engage vraiment à faire cela, même si on ne peut pas, en tout cas, atteindre cela, on peut estimer être, n'est-ce pas, c'est l'engagement.
Alors, Bachir Hassan, directeur de périmètre à l'ONAHA. Alors, actuellement, que faut-il retenir des actions entreprises par l'État pour atteindre cet objectif?
Moi, je crois que pour atteindre l'objectif de l'autosuffisance à riz en 2023, il faut nécessairement l'implication de l'État, surtout au niveau des intrants, des intrants agricoles. Maintenant, nous avons fini la campagne saison sèche et 2022. Nous entamons la saison hivernale. À l'heure actuelle, personne ne sait où se trouve l'engrais, où est-ce qu'il va s'approvisionner en engrais. Parce que nous, on a fait la semis début juin, c'est-à-dire vers le 5. So, maintenant, ces semences-là, dans 25 à 30 jours, ils seront aptes à être répiqués. Même jusque-là, on ne sait pas où trouver l'engrais. C'est notre sérieux problème, vraiment. Donc, moi, je crois que pour atteindre cet objectif, il faut que l'État s'engage vraiment à mettre à la disposition les intrants, les moyens aux coopératives pour sa bonne marche, vraiment.
Nous allons donc échanger sur les défis auxquels font face l'agriculture au Niger, notamment dans le secteur de la riziculture.
Aujourd'hui, nous devrons produire plus pour nourrir nos populations. Aujourd'hui, nous devrons créer les conditions pour que ces coopératives-là marchent. Aujourd'hui, le défi même est à l'État de mettre vraiment à la disposition des producteurs les intrants dont ils ont mené et dont ils ont besoin pour mener à bien leurs activités. Moi, je pense vraiment que le vrai défi, c'est à l'État de voir comment essayer de subvenir aux besoins de ces producteurs.
Abdelatif, les perspectives?
Voilà. Et les perspectives, elles sont entre autres. C'est l'implication surtout de l'État dans cette affaire. Mm-hmm. Parce que là, on sent un grand délaissement de sa part. Mm-hmm. Et c'est comme l'a si bien dit tonton, toutes ces personnes-là qui prennent des décisions, ce sont des gens aujourd'hui qui ne profitent pas avec le riz local. Il n'y a pas longtemps, nous avons reçu la visite d'un ambassadeur mm-hmm. et qui a goûté au riz. Et chaque fin du mois, actuellement, il y a ces deux sacs dans l'atelier de quelqu'un qu'on voit lui envoyer. Il a dit, mais c'est ce riz-là que vous avez, et pendant que d'autres se retrouvent dans les supermarchés et payent des choses qu'ils ne savent même pas comment ils sont faites. Vous voyez? Donc, si on a cet engagement, on a cette volonté étatique, en tout cas, même si nous ne pouvons pas atteindre cela, mm-hmm. nous pouvons au moins espérer, en tout cas, d'ici 2025. C'est l'implication surtout. Et il faut qu'il y ait un allègement aussi et par rapport à la question restrictive liée à la vente interdite du carburant. C'est vrai, comme disent les gens, c'est une seule graine qui fait que les autres se pourrissent. Mais je crois qu'il y a dans cette catégorie des gens qui sont animés de bonne foi, qui sont animés de bon comportement, qui aujourd'hui, on peut leur faire confiance et les vendre. Oui, c'est tout ce dont nous avons besoin.
Bachir Hassan, vous pouvez ajouter?
Oui, c'est vraiment à l'État de s'engager. Parce que les producteurs, eux, ils font de leur mieux, vraiment. Mmh. Avant, l'État subventionne l'engrais à 18 000 et maintenant 25 000. Vraiment, les producteurs, eux, ils sont à bout. C'est à l'État, vraiment.
Je vais ajouter, c'est vrai, nous avons dit l'État, mais il faut encore revenir vers nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devrons être sérieux dans notre gestion des coopératives. Et si nous sommes sérieux et que l'État a la volonté, ça veut dire qu'on peut atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Voilà, nous sommes au terme du forum sur le thème « Comment booster la production du riz dans la région de Tillabéri, défis et perspectives ». Vous avez suivi l'intervention de nos invités sur cette thématique. Malgré les engagements pris par les autorités, beaucoup reste à faire au vu des contraintes liées à la production du riz. Des contraintes qui ont un impact considérable sur cette production. Nos invités appellent donc l'État à avoir un œil regardant sur la production du riz au Niger et particulièrement dans la région de Tillabéri. Nous étions en compagnie de Alzuma Munkaila, acteur de la société civile, membre du cadre de concertation pour des actions citoyennes CCAT, Bachir Hassan, directeur de périmètre à l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA, Ablatif Ayouba, producteur. La présentation était assurée par Fatih Zakari, la technique Amin Hassan. Merci donc à nos invités d'avoir accepté notre invitation ici au studio Tebonsé de la ville de Tillabéri. Au revoir, le programme continue sous le studio Kalombo.